Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une nouvelle écrite par Michel Lermontov, qui est né en 1814 et mort en 1841 au cours d'un duel, qu'il était officier. Et il a écrit une œuvre en prose, il a écrit beaucoup de vers, et une œuvre en prose qui s'appelle « Un héros de notre temps ». Dans cette œuvre en prose, il y a une nouvelle qui s'appelle « Tamagne » et c'est d'elle que je voudrais vous parler aujourd'hui. Tamagne est la plus misérable bourgade de toutes les villes maritimes de Russie. J'ai failli y mourir de faim et de surcroît, on a voulu m'y noyer. J'arrivais en poste à Tamagne tard dans la nuit. Le cocher arrêtait les trois chevaux exténués à la porte de l'unique maison de pierre qui est à l'entrée du bourg. Le factionnaire, un cosaque de la mer Noire, à moitié endormi, cria « Qui va là ?» Un adjudant, un caporal sortirent, je leur expliquai que j'étais officier, je rejoignais un détachement en campagne pour les besoins du service, je réclamais un casernement. Le caporal nous conduisit à travers la ville, mais chaque isba où nous nous présentions était déjà occupé. Il faisait froid, je n'avais pas dormi pendant trois nuits, j'étais exténué, je commençais de me fâcher. Mène-moi quelque part, même chez le diable, pourvu que j'ai une place. « Il y a encore un logement ?» dit le caporal en se grattant la nuque. « Mais votre honneur ne s'y plaira pas, l'endroit n'est pas propre. » N'ayant pas compris la signification exacte de ce dernier mot, je lui ordonnais d'aller devant et après avoir longuement erré à travers des ruelles bourbeuses où je ne voyais que de tous côtés que des palissades délabrées, nous parvînmes à une petite maison tout au bord de la mer. La pleine lune éclairait une toiture de roseaux, les murs blancs de mon nouveau logis. Dans une cour entourée d'une muraille de galets, se tenait de côté une seconde masure plus petite, plus vieille que la première. Le rivage descendait comme une falaise vers la mer, presque jusqu'au mur de la masure et en bas, des vagues bleues sombres écumaient avec un grondement ininterrompu. La lune contemplait paisiblement l'élément agité mais soumis à sa lumière. Je pus distinguer, loin du rivage, deux bateaux dont les agrès, pareils à des fils d'araignées, se dessinaient sur le fond pâle de l'horizon. Un cosaque de la ligne faisait fonction d'ordonnance auprès de moi. Lui en donnait l'ordre de sortir ma valise, de congédier le cocher. J'appelai le patron, silence. Je frappe, silence. En fin de l'ombre sortit un gamin de 14 ans à peu près. Où est le patron ? Il n'y en a pas. Comment ? Pas du tout de patron ? Non. Et la patronne ? Partie au village. Qui donc m'ouvrira la porte ? Elle s'ouvrit d'elle-même, il y eut un souffle d'humidité venant de la maison. J'allumai une allumette soufrée, la mis sous le nez du gamin. Elle éclaira deux yeux blancs. Il était aveugle, totalement aveugle de naissance. Il se tenait immobile devant moi et je me mis à examiner les traits de son visage. Mais que voulez-vous lire sur un visage privé, Dieu ? Je le regardais longuement avec une pitié involontaire quand soudain, un sourire à peine perceptible courut sur ses lèvres minces, je ne sais pourquoi, il me produisit l'impression la plus désagréable. « Tu es la fille du patron ? » lui demandai-je. « Non. » « Qui es-tu ? » « Un pauvre orphelin. » « La patronne a des enfants ? » Non. Non, elle avait une fille, mais elle est partie au-delà de la mer avec un tatar. Quel tatar ? Un tatar de Crimée, un batelier. J'entrai dans la cabane. Passe une icône au mur. Mauvais signe. Le vent de la mer pénétrait à travers une vide brisée. Je sortis de ma valise un bout de chandelle. L'ayant allumé, je me mis à disposer mes effets, je plaçai mon sabre, mon fusil debout dans un coin, posai mes pistolets sur la table, étendis mon manteau de feutre sur le banc. Près d'une heure s'écoula ainsi, la lune éclairait la fenêtre et son rayon jouait sur le sol en terre de la cabane. Soudain, une ombre traversa la bande lumineuse qui coupait le plancher, je me soulevai, Quelqu'un passa une seconde fois près de la fenêtre en courant, disparu. Je me levai. À ma rencontre arrivait le gamin aveugle. Je me cachai près de la patiente et passa devant moi d'un pas sûr mais prudent. Il portait une sorte de paquet sous le bras et tournant vers le port, il se mit à descendre par un sentier étroit et abrupt. Pendant ce temps, la lune commençait à se couvrir de nuées. « Eh bien, l'aveugle, disait une voix féminine, la tempête est forte, Yanko ne viendra pas. À travers le brouillard, on passe plus facilement entre les barques des gardes et siffler naufrage. Eh bien, dimanche, tu iras à l'église sans ruban neuf. » Un silence suivit. Tu vois, j'avais raison, dit à nouveau l'aveugle, battant des mains. Yanko ne craint ni la mer, ni les vents, ni le brouillard, ni les gardes-côtes. Tant l'oreille, ce n'est pas l'eau qui clapote, ce sont ses rames. J'avoue que j'avais beau m'efforcer de distinguer au loin quelque chose de semblable à une barque, c'était sans succès. 10 minutes à peu près s'écoulèrent, et voilà qu'entre les montagnes de vagues apparut un point noir. Tantôt il grossissait, tantôt diminuait. Je retournai dans la masure. Le poêle était chauffé au rouge. Il cuisait un dîner assez luxueux pour des pauvres. À toutes mes questions, la vieille répondait qu'elle était sourde et n'entendait pas. Je me tournai vers l'aveugle qui était assis devant le poêle. « Dis-moi un peu où tu allais cette nuit avec un ballot, hein ?» Et tout à coup, mon aveugle se mit à pleurer, à crier, à hurler. « Je suis allé nulle part avec un ballot. Quel ballot ?» Et cette fois, la vieille avait entendu. Elle se mit à grommeler en voilà de ses inventions. « Et encore contre un malheureux, pourquoi vous vous en prenez à lui? Que vous a-t-il fait ?» Je sortis, décidé à trouver la clé de l'énigme. Tout à coup, mon oreille fut frappée par quelque chose qui ressemblait à un chant, oui. C'était un chant, une fraîche voix de femme. D'où venait-elle? Je lève les yeux. Sur le toit de ma cabane se tenait debout une jeune fille, vêtue d'une robe rayée, les cheveux épars. De la pomme, elle se protégeait les yeux des rayons du soleil, fixait attentivement l'horizon. Tantôt elle riait, tantôt elle se remettait à chanter. Comme en pleine liberté sur la mer verte, courant tout le temps des bateaux, blanche voilure, et entre ces bateaux ma barque. Ma barque s'envoie à deux rames quand la tempête se déchaîne. Les grands bateaux lèvent leurs ailes blanches.
Завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан.
Suivez-moi, dit-elle en me prenant la main. Nous nous mîmes à descendre. Je ne comprends pas comment je ne me rompis pas le cou. Arrivés en bas, nous tournâmes à droite et nous allâmes par le chemin que j'avais suivi la veille avec l'aveugle. La lune n'était pas encore levée et seules deux petites étoiles, telles de phares, scintillaient sur la voûte bleue foncée. De lourdes vagues roulaient, l'une après l'autre, lentes et régulières, soulevant à peine une barque solitaire amarrée au rivage. Montons dans la barque, dit ma compagne, j'hésitais. Je ne suis pas amateur de promenades sentimentales amères, mais il n'était plus temps de reculer, elle sauta dans la barque, je la suivis. Et avant que j'eusse le temps de me rendre compte de ce qui se passait, je vis que nous voguions. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie, me répondit-elle en me faisant asseoir sur le banc, en me serrant dans ses bras, cela signifie que je t'aime. Sa joue s'appuya sur la mienne, je sentis sur mon visage son souffle brûlant. Tout à coup, quelque chose tomba bien pourri dans la mer. Je portai la main à ma ceinture, plus de pistolet. À ce moment, un affreux soupçon s'insinua dans mon âme, le sang me monta à la tête, je me retournai. Nous étions à plus de 500 mètres du rivage, je ne sais pas nager, je veux la repousser, elle s'est cramponnée en moi, dans mes vêtements, et soudain un brusque choc manque de me précipiter à la mer. La rage me donnait des forces. Mais je remarquai aussitôt que je cédais à Madame Lachefer en souplesse. « Que veux-tu donc ?» Ses doigts craquèrent, ne poussa pas un cri. « Tu as vu, me dit-elle, tu vas nous dénoncer. » D'un effort suprême, elle me renversa sur le bord de la barque, la moitié d'un corps penché hors de l'eau. L'instant était décisif. Je la saisis d'une main à la gorge, de l'autre chevet, elle lâcha mes vêtements. Je la précipitai dans l'eau. Sa tête apparut deux fois parmi l'écume, puis je ne vis plus rien. Au fond de la barque, je trouvai la moitié d'une vieille rame et parvins, vaille que vaille, à regagner le port. Par curiosité, je me suis allongé dans l'herbe au-dessus de l'escarpement de la côte. Je fus passé trôné, je fus même presque heureux de reconnaître ma naïade. Elle pressait ses longs cheveux, sa chemise trempée dessinait son corps souple. Une barque parut bientôt dans le lointain. Un homme en sortit. Yanko, dit-elle, tout est perdu. Où donc est l'aveugle ? Je l'ai envoyé. Écoute l'aveugle, dit Yanko. Montre le garde. Il y a là des marchandises précieuses. Dit, ah, je n'entendis pas le nom, qui ne me verra plus. Je vais chercher du travail ailleurs, mais lui ne trouvera pas de gaillard aussi hardi que moi. Et moi, demanda le garçon d'une voix plaintive, qu'ai-je besoin de toi ? Je retournai chez moi. Dans l'entrée, une chandelle crépitait. Ma cassette, mon sabre garni d'argent, mon poignard, tout avait disparu. Ayant réveillé le Cosaque d'une poussée aussi brutale, je l'injuriais, je me fâchais. Vers le matin, j'eus la possibilité de partir, je quittai Taman. Qu'advint-il de la vieille et du pauvre aveugle ? Je ne sais. Et d'ailleurs, que m'importent les joies et les douleurs humaines à moi, officier errant et qui plus est, en route pour affaires de service. Je vous remercie de m'avoir écouté.